Vous écoutez
RMC.
Il est 7h59, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous avez fait le bon choix.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure de retrouver Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. On va dresser le tout premier bilan de ces premières fortes chaleurs. Il est lourd, deux baigneurs emportés par le courant en Gironde, une noyade en Seine-et-Marne, un mort lors d'une course à pied à Paris et des malaises lors de nombreuses épreuves. Nous serons à Rennes aussi dans ce journal où un adolescent de 12 ans a été retrouvé mort au bord de la Vilaine. Hier, une serviette de bain nouée très fort autour de son cou. Et on va vous donner les premières infos RMC sur le dispositif de sécurité pour le week-end prochain à Paris, pour la finale de la Ligue des Champions.
Bon, alors si vous avez mal dormi cette nuit, sachez que c'est normal. Il n'a jamais fait aussi chaud à la fin d'un mois de mai.
Oui, alors Géraldine, vous êtes restée avec nous puisqu'on a ces 18 départements de l'Ouest et de région parisienne en vigilance jaune, là, ce matin. Et vous nous dites que les 36 degrés qui sont attendus dans l'Ouest aujourd'hui, c'est complètement inédit.
Complètement, effectivement. Alors c'est vrai que c'est rare qu'on vous parle d'une vigilance jaune en matière de météo. Mais il faut bien comprendre que pour passer en vigilance canicule, il faut dépasser certains seuils qui ont été calculés sur les mois de juillet et août. C'est pas du tout adapté pour un mois de mai. Il y a fort à parier d'ailleurs que certains départements passent même en vigilance orange dans quelques heures. C'est-à-dire que c'est une situation exceptionnelle, jamais vue avant un 15 juin. Épisode donc particulièrement précoce, particulièrement intense aussi, puisqu'on a égalé hier la journée la plus chaude jamais vue en mai avec un indicateur thermique de 22,9 degrés. Aujourd'hui, on va littéralement exploser ce record. Aujourd'hui et jusqu'à mercredi, hein, on attend des indicateurs thermiques autour des 25 degrés. Donc là aussi, hein, inédit avant une mi-juin. Et il faudra attendre au moins dimanche pour que les températures commencent à baisser. Alors forcément, si vous êtes au bord de l'eau, bah c'est tentant d'aller piquer une petite tête, mais soyez vraiment très prudent. D'abord, il y a un risque de choc thermique. À La Rochelle, par exemple, on en parlait, 36 degrés dans l'air cet après-midi, mais seulement 19 dans l'eau. Et puis dans l'océan Atlantique, vous avez le risque de baïne, ces courants très dangereux. À cette période de l'année, ils ne sont pas encore forcément bien balisés, donc ne prenez pas de risque.
Et ces baïnes ont fait deux morts. D'ailleurs, il fait chaud comme en été, il y a un monde fou à la plage depuis le début du week-end. Deux baigneurs, donc en Gironde, qui sont morts emportés par les courants de ces baïnes. Ça s'est passé à Lacanau et à Lèche-Cap-Ferré. Les secours alertent, hein, pourtant, le bilan aurait même pu être bien plus dramatique. Il y a une trentaine quand même de baigneurs qui ont été emportés en trois jours par ces baïnes. Alors la plupart des plages ne sont pas encore surveillées à cette époque de l'année et ils ont été secourus par des sauveteurs bénévoles qui étaient quand même mobilisés. Autre drame, près de Melun, où un jeune de 17 ans s'est noyé en se baignant dans la Seine. Et alors de nombreux événements sportifs étaient maintenus malgré la chaleur. Et quand on dresse le bilan ce matin, Inès Zegloul pour RMC, on s'aperçoit que ça a tourné à l'hécatombe avec un mort à Paris.
Oui, c'était l'un des 1652 SAR sur la ligne de départ d'un 10 km organisé dans le 20e arrondissement, 118 mètres de dénivelé, plus de 25 degrés au moment de ses lancers, retrouvé en arrêt cardio-respiratoire par les pompiers qui n'arrivent pas à le réanimer. L'homme âgé d'une cinquantaine d'années est décédé. C'est une immense tristesse, commente la mairie de Paris, au sud-est de la capitale, aussi à Maison-Alfort. Trois courses étaient prévues, toutes interrompues pour cause de malaise en série. 16 au total, 6 légers et 10 cas graves sans pronostic vital engagé. Du côté de Royan, cette fois-ci, des ambulances supplémentaires ont été mobilisées pour acheminer les marathoniens en difficulté vers le poste de secours. Plus d'une centaine de participants y ont été soignés. Trois victimes également évacuées vers des hôpitaux en marge d'un 10 km en bord de mer à Menton. Bref, vigilance exhorte désormais le ministère des Sports qui appelle les pratiquants, les encadrants et les organisateurs d'événements sportifs à faire preuve de la plus grande prudence.
Et alors, est-ce en lien avec la chaleur? Un footballeur de 35 ans, footballeur amateur, est mort durant un match qui se déroulait hier après-midi à Marseille, dans le stade qui est au pied de Notre-Dame de la Garde. Il s'est effondré et les secours n'ont rien pu faire. Voilà ce qu'écrit ce matin le journal La Provence.
Et on se demande ce matin ce qui s'est passé hier à Rennes.
Où un adolescent de 12 ans a donc été retrouvé mort sur les rives de la Vilaine. Mais alors ce qui est suspect, c'est qu'une serviette de bain était nouée autour de son cou. Martin Lange, vous êtes notre correspondant RMC en Bretagne. Vous êtes en direct de la rive, là où le corps donc, a été découvert. Une enquête pour meurtre est ouverte.
Oui Quentin, c'est ici à quelques mètres d'un pont, dans une zone protégée par des arbres en bord de Vilaine, que le corps de cet adolescent de 12 ans a été retrouvé hier. Ce matin, les barrages imposés par les forces de l'ordre dans tout le quartier ont été levés. La grande tente blanche qui abritait la police scientifique a été démontée. Il n'y a plus aucune trace du drame qui s'est joué ici il y a quelques heures. Cet adolescent de 12 ans retrouvé mort, donc avec une serviette nouée autour du cou. Plusieurs éléments interpellent les enquêteurs ce matin. Cette serviette, hein, bien sûr, mais aussi les cris entendus par un pêcheur qui a donné l'alerte. S'agit-il d'un acte volontaire, d'un jeu qui aurait mal tourné? En tout cas, selon des témoins sur place, hein, les policiers recherchaient hier des tiers, peut-être d'autres adolescents. L'enquête pour meurtre d'un mineur de moins de 15 ans a été confiée à la police judiciaire de Rennes, qui dit n'exclure aucune hypothèse.
Martin Lange, en direct de Rennes, ce matin pour RMC. Tiens, on en parle depuis 5h du matin sur RMC. La Ligue contre le cancer, qui demande un durcissement de la loi concernant les cigarettes électroniques et tout ce qui est vapotage, en les interdisant des lieux publics, comme c'est le cas déjà pour le tabac depuis un an bientôt, aux abords des écoles et des parcs notamment. Écoutez ce que disait un petit peu plus tôt ce matin sur RMC Emmanuel Ricard, directeur de la prévention à la Ligue contre le cancer.
On a les fumeurs. La cigarette électronique peut être un moyen pour soit substituer la nicotine, soit faire le sevrage. Par contre, on a une population qui est la population jeune, qui de plus en plus consomme. La crainte qu'on a, c'est qu'on soit en retard d'une guerre et que ce qu'on a gagné sur la cigarette classique, on est en train de la perdre sur le vapotage.
15 personnes mises en examen hier soir à Paris, 7 jugées en comparution immédiate demain. C'est ce que fait savoir le parquet de Paris après la rixe de jeudi dernier à la veille de la finale de Coupe de France que Lens a remportée et a célébré sans le moindre incident. Je vous signale d'ailleurs que l'entraîneur lensois Pierre Sage sera l'invité de l'after foot ce soir à 22h sur RMC.
Il demande à faire du jour de la victoire de Lens un jour férié. Oui, vous avez vu ça.
Pardon. C'est le maire de Lens qui demande.
C'est le maire de Lens. Ah pardon, oui, c'est pas Pierre Sage.
Non, mais bon, il pourra revenir là-dessus ce soir dans l'after. Je trouve ça quand même incroyable. Alors, on se tourne maintenant vers la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu, comme chacun le sait, samedi. Paris qui jouera contre Arsenal. Arsenal qui a encore gagné ce week-end d'ailleurs. Mais alors, Virginie Fulpin en direct ce matin pour RMC. On sait déjà qu'il n'y aura pas de parade en cas de victoire sur les Champs-Élysées. On a des infos RMC ce matin.
Oui, déjà, vous oubliez la voiture le week-end prochain à Paris. Hein, d'une manière générale, à partir de vendredi 17h jusqu'à dimanche matin, une bonne partie du 8e arrondissement de la capitale sera interdite à la circulation. Ça déborde aussi sur les 16e et 17e arrondissements. Il sera même interdit de stationner sur les Champs-Élysées et dans les rues adjacentes. On attend beaucoup de monde à Paris samedi et dimanche. En plus de cette finale retransmise en direct dans un Parc des Princes qui sera plein, il y a aussi Roland Garros et puis deux énormes concerts, Damso à la Défense Arena et Aya Nakamura au Stade de France. Si le Paris Saint-Germain conquiert sa deuxième Ligue des Champions de suite, les joueurs ne feront donc, Quentin, pas de parade sur les Champs-Élysées dimanche, comme ils l'avaient fait l'an dernier. L'option qui semble se dessiner, c'est une célébration sur le Champ de Mars. La préfecture de police de Paris va d'ailleurs demander l'interdiction de circulation et de stationnement autour de ce Champ de Mars de samedi 22h jusqu'à dimanche 20h. Le but est que le Paris Saint-Germain puisse s'offrir une photo avec la Tour Eiffel en toile de fond.
Bon, on verra ça. Déjà, faut gagner cette finale de Ligue des Champions pour Paris contre Arsenal samedi, donc en fin de journée. Il y avait au moins 30 000 personnes et tout s'est très bien passé d'ailleurs hier à Bordeaux pour le retour des rugbymen, sacré champion d'Europe pour la deuxième année d'affilée. Ils ont paradé dans la ville avant d'être reçus à la mairie et au stade Chaban Delmas qui était plein pour l'occasion. Je vous signale qu'il y aura 9 Français en lice aujourd'hui à Roland-Garros que vous vivez, vous le savez, dès les premières balles à 11h sur RMC et notre radio digitale 100% terre battue. Gaël Monfils lui jouera dans la soirée pour son dernier Roland-Garros à 39 ans. On espère que ça se passera mieux qu'hier sur les 12 Français qui étaient engagés, il y en a 10 qui ont été éliminés. Et puis alors, il y a un événement très controversé qui a commencé cette nuit à Las Vegas, aux États-Unis. Les jeux améliorés, on va traduire ça comme ça, on en a déjà parlé sur RMC, c'est les jeux du dopage, parce que le dopage est autorisé. Il y a un Français qui participe à ça. Cette nuit, un nageur grec a nagé le 50 mètres nage libre, 7 centièmes plus vite que l'actuel record du monde, sans être homologué, bien sûr.
Ça n'empêche pas qu'il touchera une prime... magnifique pour les records battus, c'est ce qu'ils ont promis à tous les dopés là.
En fait, c'est le seul enjeu de ces jeux améliorés, c'est
de battre des records
et toucher.
Ils seront pas homologués.
Ils seront pas homologués.
Bref, je vous invite à télécharger le podcast d'une chronique que vous ne connaissez peut-être pas à 8h08 du matin qui s'appelle La Causerie. Virginie Fulpin qui en parlait vendredi matin de ces Enhanced Games à Vegas. Merci Quentin Vinet. C'était le journal de 8h, il est complet, il est 8h08 et c'est l'heure de parler d'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
C'est pas fameux, hein, l'actu de Jean Fayet aujourd'hui. Il y a quand même une bonne nouvelle. Et ces derniers temps, c'est pas sur ce terrain-là qu'on les comptait, les bonnes nouvelles. Les cours du pétrole qui baissent sensiblement. Est-ce que cette baisse est durable?
Alors, On va sans doute au moins vers un premier palier de baisse assez important. Hein. C'est vrai que cette perspective d'un accord entre Washington et Téhéran, elle a provoqué une forte baisse des prix du pétrole. Je vous rappelle qu'il y a une semaine, le baril valait encore 112 dollars. Vendredi, c'était 105 dollars. Et là, on est passé quasiment sous les 95 dollars ce matin. Si la détente se confirme, notamment avec la perspective d'une réouverture du détroit d'Hormuz, il faudra quand même attendre quelques semaines avant que les livraisons de brut ne reprennent au même rythme qu'avant, parce qu'il va falloir remettre en route les infrastructures endommagées, il faut faire revenir les supertankers, il faut reconstituer les stocks, donc tout ça va prendre un peu de temps. Ensuite, dans les stations-service, eh bien, il va falloir écouler le carburant acheté au prix fort. Carburant, en plus, qui met 2 à 3 fois plus de temps à s'écouler dans les périodes de baisse que pendant les périodes de hausse. Parce que autant pendant les périodes de hausse, les automobilistes se ruent à la pompe, autant quand les prix baissent, ils se disent « Mais pourquoi j'achèterais aujourd'hui du carburant que je paierais moins cher demain ?» Et donc, c'est 2 à 3 fois plus lent, en général, de vider les cuves d'une station quand les prix baissent que quand les prix montent. Tout ça fait que ça va mettre du temps à se répercuter. Mais, grosso modo, on pourrait avoir un nouvel équilibre des cours du brut, quand même, une fois qu'on aura supprimé la prime spéculation et la prime géopolitique, autour de 85-90 dollars le baril, et que ne resteront plus que les contraintes physiques.
Bon, à la pompe, Manu, à parce que là, pompe. On suit les cours avec
alors,
passion.
C'est bien pétrole, mais à la pompe.
Mais voilà, mon sans-plomb, mon gazole, quand est-ce que ça se passe?
Alors, ça veut dire que dans les 2 semaines à venir, les prix à la pompe pourrait perdre 15 à 20 centimes au litre. Ça veut dire à peu près 1,95€ le litre de gazole, 1,85€ le sans-plomb. Mais il faudra sans doute plusieurs semaines avant de retrouver les prix d'avant-guerre. Les prix d'avant-guerre, c'était un peu moins de 1,70€ le litre pour le gazole, un peu plus pour le sans-plomb 85, 95. Mais en tout état de cause, ça veut dire qu'on partira quand même en vacances, ou du moins les premiers qui partiront en vacances début juillet pourront prendre la route avec des prix du carburant un peu plus raisonnable. J'ai quand même payé 2,40€ mon litre de sans-plomb 95 sur l'autoroute ce week-end,
vous
voyez.
Ah oui, mais en même temps, vous prenez l'autoroute, vous, Manu Le Chypre. je vous taquine. Ça dit 1,70, on n'y croit pas tout de suite, mais 1,85, ils signent tout de suite nos auditeurs.
Je vous le dis
tout
de suite. Les 1,85,
si la guerre s'arrête, en fait.
Alors, si on a la confirmation qu'il y a un accord, évidemment. Mais disons que si le pétrole reste quelques jours sous les 100 dollars le baril, autour de 90-95.
Un peu d'air au moins, quoi.
On le verra à la pompe dans les 2 semaines qui viennent, assez significativement.
Alors, pour l'instant, les prix, Manu, les prix du jour?
Ah ben oui, les prix du jour. C'est vrai.
Certains vont faire le plein rentrée de week-end.
Alors, le gazole, 2,12€ le litre. Ah ouais. On était à 2,16€ à la veille du week-end. 2,11€, 2,12€. Ça fait quand même 4 centimes de moins que vendredi. Le sans-plomb 95... Le rythme ne baisse pas pour l'instant, c'est à peu près 1 centime et demi de hausse par semaine à 2,04. Le pétrole, bon, j'y reviens pas, forte chute. Et puis le gaz, bah aussi, profite quand même de cette perspective d'accord États-Unis-Iran. Net baisse 45€ le mégawatt-heure, on était à 50 à la veille du week-end.
Merci Emmanuel Le Chypre, il est 8h12. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et dans un instant, Arnaud Demange qui débarque pour nous faire rire. 8h30, l'invité du face-à-face est Alain Bauer, professeur émérite de criminologie et auteur de Trump, le pouvoir des mots. Et puis juste après, face à Cantelou, Nicolas Cantelou en direct à 8h50. Voilà le programme, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Tous les jours, même les lundis de Pentecôte. Bonjour Arnaud Demange.
Même quand c'est férié. Bonjour les amis.
Ça va?
Salut.
Alors aujourd'hui, c'est le lundi de Pentecôte. Mathieu, vous l'avez dit, c'est une journée de solidarité en faveur des personnes âgées. Ça veut dire qu'on travaille gratos pour les boomers. Comme déjà la moitié de l'année en fait. Sauf que là, c'est plus officiel. C'est un peu le Boomers Day. Allez tiens, cadeau pour eux, la régie. Envoyez une chanson que les boomers aiment bien.
Peut-être pas Bruel,
peut-être qu'une autre, ça aurait été mieux. Donc, joyeux Boomers Day aux Josiane, Robert, Michel, Martine qui nous écoutent et qui vont nous dire « Mais vous plaignez pas de bosser, vous vous plaignez toujours. Vous verrez quand vous aurez nos âges. Nous, on a travaillé. » Parfois jusqu'à 53 ans. Alors on a bien mérité une journée de solidarité. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, aujourd'hui, de toute façon? Vous auriez traîné dans votre jardin? Vous n'avez pas de jardin. Nous, on en a un parce qu'on a travaillé. Oui, on n'est pas payé aujourd'hui. Mais oui, ben, ça vous fait pas de mal d'être un peu solidaire. Vous savez combien ça coûte une pergola? Non, forcément, vous savez pas, vous avez pas de jardin. J'arrive pas à être propriétaire. Bah oui, ben moi, pour acheter la maison à Cannes en 77, j'ai pas hésité. Je suis allé prendre un mi-temps chez Mammouth et j'ai bossé. C'est pour ça que 3 ans plus tard, elle était payée. Alors, comme vous étiez tous en terrasse à glandouiller ce week-end, vous avez peut-être loupé une info incroyable. L'Élysée a été perquisitionné. Vous avez vu ça? Il y a eu une perquisition à l'Élysée, quoi. Alors, c'est dans le cadre d'une information judiciaire sur l'organisation des cérémonies d'hommage au Panthéon. Et c'est la société Shortcut Events qui chope le contrat à chaque fois. Alors, les juges veulent savoir pourquoi. Bon, alors... C'est pas pour les défendre, Shortcut Events. C'est juste, doit pas y avoir non plus 250 boîtes spécialisées dans les panthéonisations, quoi. C'est-à-dire, c'est rarement un truc qu'on fait nous, c'est assez niche. Moi, nos enterrements à nous, ils sont plus modestes. J'en ai parlé à ma femme. Je demandais pour le mien. Elle m'a dit non. C'est pas du tout prévu de te faire défiler ton cercueil dans les rues de Versailles. Parce que moi, je voulais une brigade de cheval de chaque côté, c'est avec des petites filles qui apportent des médailles sur des coussins, et des Sylvie et des Nathalie qui pleurent. Tout mon public de spectacle en larmes, comme en Corée du Nord. Et un discours de Jack Lang. Il était charmant. Et puis, il a grandi. Alors, ça coûte 2 millions de panthéoniser quelqu'un. Alors que franchement, moi, vous me l'auriez filé, la dépouille de Badinter, une estafette, 3 potes, une pelle, on tirait pour 50 balles. Et encore, parce que l'essence est chère. Donc là, voilà, les inspecteurs ont fouillé partout dans l'Élysée, ils ont dit, Monsieur le Président,
oui, inspecteur,
on a trouvé un dossier bizarre.
Qu'est-ce que c'est ça? Oh, génial! C'est mon programme de gauche pour ma présidence. Je le cherchais depuis 9 ans.
Ah oui, on avait remarqué. Enfin, à mon avis... Toute cette fouille n'est qu'un prétexte. Je pense que c'est Brigitte qui est derrière tout ça.
Fouillez tout! Fouillez son téléphone! Je suis sûr qu'il continue à la brancher, son actrice iranienne. Mais Brigitte, arrête! Je t'ai dit que c'était platonique. Là, on est sur les panthéonisations. Ah ouais, ta poufiasse de Téhéran, tu vas la panthéoniser aussi?
Vous savez que, selon le livre relayant cette rumeur, le président aurait échangé des SMS qui seraient allés, je cite, assez loin avec Goldshift et
Paradis. La citation, c'est assez loin.
Le président aurait dit à l'actrice iranienne, alors, si vous êtes sensible, bouchez-vous les oreilles, hein, éloignez les enfants. Il lui aurait envoyé,
tu es très jolie.
Puceau, va! François Hollande, c'était autre chose. François Hollande, il disait, allez poupée, réserve-moi ta nuit, je vais te faire découvrir ton corps. Et si le matin, t'as encore faim, j'amène les croissants. C'était autre chose que son SMS de collégien.
T'es jolie, tu veux bien aller à la boum de Ludovic avec moi?
Alors, Gabriel Attal a déclaré sa candidature à la présidentielle depuis un petit village de l'Aveyron, Mur de Barret.
Oui, quelle drôle d'idée.
De Barrez, je sais pas si c'est de Barret ou Barrez.
Je n'en sais rien du tout.
Vous êtes du coin, appelez-nous.
C'était un week-end ensoleillé. Je ne suis pas allé jusque-là dans le travail.
Ni dans l'Aveyron.
J'ai quand même trouvé que c'était une drôle d'idée. Pardon, mais le jour où moi je me présente à la présidentielle, je loue Bercy en fait. Je vais venir une chorale gospel. Je te fais 2 heures de discours enflammé avec juste un entracte de Jules et Gojira. Je ne vais pas un samedi sur une cagette, place du marché, avec qui me regarde.
Ouais, qu'est-ce qu'il fout là, le barigot?
Ouais, il se présente à la présidentielle.
Bonjour messieurs, c'est pour qui vous votez en 2027?
Eh ouais, Jordan Bardella.
Ah bon? Pardon, alors désolé de vous avoir dérangé.
Et alors le parigot, il paye pas sa tournée?
Si, si, bien sûr.
Un fusti pour tout le monde.
Et là, vous voterez pour moi?
Un fusti, bah encore moins.
Et alors ensuite, Gabriel Attal était à la transhumance des vaches.
Waouh! Alors c'est ça que vous appelez une poule? D'où ils sortent les œufs?
Tu sens qu'il a voulu copier Chirac.
Il était à bonjour. Écoutez, crac-crac, mangez des pommes. Dites donc, vous avez une région abracadabrantesque. C'est loin, mais c'est beau. Vous êtes des travailleurs français. Et vous savez, le travailleur français qui voit des étrangers sur son palier, si vous ajoutez à ça le bruit et l'odeur...
Non, Gabriel, faut pas tout copier. Tout n'était pas bon à prendre.
Bravo, Arnaud Demange, qu'on retrouve bien sûr demain matin. Et sinon, à tout moment du jour, de la nuit, quand on veut, sur l'application RMC, en podcast sur RMC et rmc.fr aussi, puis sur scène et ouais, bref.
Oh, partout.
Franchement, vous êtes Arnaud Demange, vous n'avez pas d'excuses. On va accueillir qui? On va accueillir Bernard, qui est dans l'Ain avec nous au 32-16 ce matin. Bonjour Bernard.
Oui, salut Mathieu.
Alors vous réagissez à l'idée, d'invisibiliser la vape, d'empêcher de vapoter sur les plages, les jardins, ouais. Bref, les abribus. Là où c'est interdit pour la cigarette classique, d'interdire la vape parce qu'aujourd'hui il y a une glamourisation de la cigarette électronique, notamment vis-à-vis des plus jeunes qui deviennent accro à la nicotine alors qu'ils n'étaient même pas fumeurs.
Alors écoutez, moi j'ai déjà arrêté de fumer grâce à la vape, alors que je fumais un paquet de nuit par jour. Grâce à la vape, j'ai arrêté du jour au lendemain. Par contre, moi j'aimerais mieux qu'un gamin se mette, vous n'allez pas pouvoir enlever l'envie à un gamin de faire quelque chose. Mais mieux vaut qu'il vape, qu'il achète un paquet de cigarettes de contrebande qui vient d'Algérie ou d'ailleurs à 5 balles. Et il sera moins malade, à mon avis.
Toujours est-il qu'il n'a pas besoin de fumer ni des cigarettes à 5 balles le paquet, ni d'acheter des cigarettes électroniques alors qu'il n'est pas accro à la nicotine.
Mais oui, bien sûr, mais de toute façon, qu'on interdise, on veut tout interdire. Pendant qu'on y est, on interdit le chewing-gum, ça donne de l'aérophagie, ça rend aussi malade que la vape. Hein. Bon, non, je pense que ça devient de l'hérésie complète. On veut être dans un pays où on a tout le droit de rien foutre, c'est comme du lire. Et moi je comprends pas, je comprends plus du tout dans quel style de vie on vit.
Eh bien, en tout cas, vous, Bernard, ça vous a aidé à arrêter de fumer, c'est ce que je comprends.
Ah ben, écoutez, moi, ça m'a arrêté du jour au lendemain, je vous dis. Hein. Un paquet de nuit par jour, j'ai le briquet à la poubelle.
Et ça, pour le coup, l'ANSES dit, c'est pas si anodin qu'on a voulu le dire, mais pour arrêter de fumer, ça reste recommandé dans un premier temps avant d'éventuellement arrêter. Là, il s'agit de préserver les enfants, notamment, qui sont, il faut bien le dire, la cible d'une industrie, l'industrie du tabac, qui, par tous les moyens, cherche à attirer les plus jeunes. Et c'est aussi dans ce sens-là que la Ligue contre le cancer préconise l'interdiction de la vape dans ces espaces publics. Merci Bernard, en tout cas, de votre appel de vapoteur en direct avec nous. Dans un instant, le face-à-face avec Alain Bauer, professeur émérite de criminologie et auteur de Trump, le pouvoir des mots. Il répond aux questions de Marie Chantré sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Marie Chantré. Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce lundi matin. Professeur émérite de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers, fondateur du pôle Sécurité, Défense, Renseignement. Et vous êtes également l'auteur de deux ouvrages qui font plein écho à l'actualité encore ce matin. Trump, le pouvoir des mots, mais aussi Intrigues à l'ONU, tous les deux publiés aux éditions First. Le pouvoir des mots de Trump, justement, on va y revenir. Alors que la Maison Blanche dort encore, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio en déplacement en Inde le dit, un accord avec l'Iran est toujours possible ce lundi. Peut-il dire autre chose alors que les marchés financiers par exemple vont ouvrir? C'est peut-être un indicateur, mais quand même l'impression à Lambauer de vivre un jour sans fin, entre des déclarations optimistes un jour, quasiment tempérées dans la demi-heure suivante par des déclarations beaucoup plus prudentes. Est-ce pour vous le signal d'une forme d'enlisement aussi de la politique du président américain ?
Non, c'est le signal de ce qu'est la diplomatie. Il a fallu des années pour obtenir l'accord dit de Vienne, JCPOA, qui a été ensuite dénoncé par le président Trump et qui nous ramène à peu près à avant. C'est le jour d'avant, c'est pas le jour d'après. et puis, on est dans une phase où les choses se sont beaucoup clarifiées. Alors, j'ai demandé à mes petits camarades américains qui travaillent la nuit, vous savez, c'est la formule, on voit le nombre de pizzas commandées pour savoir s'ils travaillent au Pentagone.
On voit effectivement, donc, c'est un indicateur.
J'ai la version à peu près complète des points. Donc, il y a 5 préalables définis par l'Iran et 14 points qui ont été négociés par un nombre invraisemblable d'intervenants, parce que si Donald Trump est parfois extrêmement péremptoire et extrêmement carré, parfois il est extrêmement délayé.
Oui.
Et donc il a fait un tweet immense pour dire avec qui il avait négocié. Il dit, j'ai négocié, je suis à la Maison Blanche, dans mon bureau, et j'ai négocié avec... Alors, le président Mohamed bin Salman Al Saoud, je pensais qu'il était prince héritier, mais bon, après tout, pourquoi pas,
d'Arabie Saoudite. Il est président depuis quelques heures, pour Donald Trump.
Voilà, c'est ça, il vient d'être élu. Mohamed bin Zayed des Émirats Arabes Unis, l'émir Al Thani de Qatar, le premier ministre, le maréchal qu'il aime beaucoup Munir du Pakistan, le président de Turquie qui revient dans le jeu, le président d'Égypte, le roi de Jordanie, le roi du Bahreïn, concernant l'accord avec l'Iran. Donc désormais, ça n'est plus un accord entre les États-Unis et l'Iran. C'est un accord régional qui est exactement au cœur de la politique hémisphérique de Donald Trump.
Et ça, c'est l'un des derniers messages.
C'est le plus long, le plus développé, le plus carré. Ensuite, il dit, j'ai aussi appelé Bibi Netanyahou, qui, je cite, fera ce que je veux. Nous sommes prêts à rouvrir le détroit, un, et deux, à entamer la phase de négociation future sur la question du nucléaire, où là aussi, sur les 14 points qui restent, 5 préalables, 14 points, il y a des avancées considérables grâce à l'intervention de qui ? Eh bien, de la Russie d'un côté, de la Chine de l'autre.
Avec un mot de Donald Trump dans ce message, le temps joue en notre faveur. Les deux parties doivent prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Oui, d'accord, mais vraiment, le temps joue en faveur des Américains au vu de la situation intérieure.
Le temps joue en faveur de la diplomatie.
Ouais.
Le temps est revenu.
Pas même des Iraniens, de votre point de vue ?
Ils n'ont pas perdu, ils ont donc gagné. Ça, il n'y a pas de photo, je le dis. Vous savez, c'est comme la guerre de 3 jours en Ukraine, quand la Russie n'a pas gagné, elle a donc perdu. On peut se raconter tout ce qu'on veut. La durée du conflit, la modernisation du conflit, la capacité des Ukrainiens à résister, eh bien vous avez une Ukraine à l'envers, pardon de dire ça comme ça, parce que je ne pense pas que l'Iran soit un modèle de démocratie libérale résistant à une invasion d'une dictature.
Oui, comparaison n'est pas raison, effectivement.
Mais techniquement parlant, on est dans un processus qui est exactement le même. Le pays qui ne tombe pas en 3 jours ou en 12 jours comme prévu, et qui montre sa résilience avec une divergence d'opérations entre les Américains qui voulaient le désarmement de l'Iran et les Israéliens qui voulaient l'effondrement du régime, montre que le désarmement est compliqué et l'effondrement est quasiment inatteignable.
Donc un bilan, Alain Bauer, plus qu'en demi-teinte. On va revenir sur les points que vous soulignez. D'abord, j'aimerais revenir sur ces jours aux auditeurs, aux téléspectateurs qui ont peut-être coupé ce week-end et qui ont l'impression, je le disais, de vivre un jour sans fin. On s'est quitté vendredi avec cette annonce du fait que Donald Trump, qui normalement va jouer au golf le week-end, n'ira pas au golf, reste à Washington. Il devait aussi se rendre au mariage de son fils. Là non plus, il n'y est pas allé. Et évidemment, on a tous spéculé, je dis nous tous, ou en tout cas tous les observateurs, et même américains, de votre point de vue, qui le connaissait, en tout cas qui l'analysait depuis des années, il savait pertinemment que ces annulations allaient être parfaitement commentées. C'est une scénographie.
Je l'explique dans le livre que vous avez cité tout à l'heure, dans mon livre sur Trump et le pouvoir des mots, c'est que c'est pas seulement le pouvoir des mots, c'est une logique, une structuration de saturation de l'espace, de contrôle de l'espace, de maîtrise absolue du récit. Parce que le Trump que nous voyons, nous, de temps en temps, aux États-Unis, quand j'y suis assez souvent, il y est tout le temps. Non seulement il y est tout le temps dans son avion, sur sa golfette, dans son bureau, en train de faire une conférence de presse, de voir quelqu'un, en général de Fox News, mais pas seulement. Et quand il n'y est pas, les ennemis et les amis de Donald Trump commandent Donald Trump. 99% du temps d'antenne de l'information, c'est de l'infotainment, c'est-à-dire c'est pas de l'information, c'est du divertissement. Trump a parfaitement compris ce qu'était l'art de la téléréalité politique et même de la téléréalité militaire. Donc là, on a la téléréalité diplomatique. Parce qu'à la différence des négociations qui sont en général secrètes où on ne sait rien, on spécule mais dans le vide, Donald Trump alimente l'information, un tweet ici, une communication là, un entretien avec un ou une journaliste, un coup de téléphone d'un ou d'une de vos collègues à qui il répond parce que pourquoi pas.
Ce qu'il a encore fait d'ailleurs ce week-end, à coup de tweets parfois générés par l'intelligence artificielle. On a en tête celui généré samedi de ce destroyer iranien touché par un missile américain et ce sous-texte, adios. Que fallait-il comprendre ? Prémunition ? Rien. Vous dites rien.
Il anime le moment. Oui. Voilà. C'est la téléréalité. La téléréalité, tout est scripté, mais rien n'a de sens.
Dans le secret des négociations, vous faisiez référence à ce message qu'il a posté, citant les interlocuteurs, finalement, qu'il avait au bout du fil. On a une idée de la manière dont se déroulent les choses. Il est véritablement aux manettes, le président américain, dans tout ça ?
Mais il n'y a personne d'autre.
Il n'y a personne d'autre.
Non, il y a une seule personne qui compte vraiment dans le système. C'est Mme Wiles, la secrétaire générale de la Maison Blanche, le seul homme de la pièce, dit-il, et quand Trump dit ça, il faut l'écouter, et Marco Rubio, parce que Marco Rubio, il a à la fois le poste de ministre des Affaires étrangères, mais aussi de conseiller à la Sécurité nationale. Vous avez vu que l'ensemble de l'appareil sécuritaire américain avait été dilué avec des vraies et des fausses raisons, mais enfin, il a viré tout le monde d'une manière ou d'une autre, et aujourd'hui, la concentration du pouvoir est assez limitée autour de la secrétaire générale de la Maison Blanche et du ministre des Affaires étrangères. Il a sur le feu Cuba, il a sur le feu le Groenland. Pendant qu'on regarde la main droite, la main gauche continue à fonctionner.
On en parle beaucoup moins, en effet.
La réalité de l'activité de Donald Trump, c'est que ses provocations, ses digressions, ses divagations et ses obsessions nous cachent l'activité de cet extraordinaire joueur de poker menteur qui fait face à un joueur d'échecs menteurs iranien et un joueur de go menteurs chinois avec des alliances et des restructurations. Et quand on regarde microscopiquement ce que fait Donald Trump, on comprend rien. On dit tout ça est incohérent, il est dingue, etc. Puis quand on remonte télescopiquement, tout d'un coup, tout ça prend du sens.
Ça n'a rien.
La reconstruction hémisphérique du monde entre les Chinois d'un côté, les Américains de l'autre, avec un obstacle majeur pour eux qui est l'Inde, pour les Chinois, un obstacle majeur pour les Américains qui est la reconquête totale, y compris du canal de Panama. Huit canaux, parce que c'est pas à Venise, c'est le cœur de la reconstruction américaine. Ils sont en train de maîtriser à la fois la sortie du pétrole, par ce qu'ils font à Hormuz en faisant le blocage du blocus.
Bien sûr.
Ou le blocage filtrant du blocus. Et surtout, l'accord militaire sur le détroit de Malacca, c'est 80% des exportations chinoises.
C'est gigantesque.
Le contrôle du monde se refait sous nos yeux. Mais comme on est obsédé par le petit côté de la lorgnette, on ne voit pas l'ensemble. Et c'est ça qui est très intéressant.
Donc pour vous, de votre point de vue, il n'y a rien de dingue dans l'attitude de Donald Trump.
Il y a des dingueries, mais ça n'est pas dingue.
Mais ça n'est pas dingue. Ça aussi, c'est intéressant à souligner. Des agitations permanentes, ça c'est ce que disent aussi certains commentateurs. Marco Rubio, je le disais aussi, qui disait qu'un accord était encore possible aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est possible?
Quand les Iraniens arrivent à Oman, pour la phase 27 des négociations, je sais plus comment dire, ils viennent avec 71 négociateurs. 71. C'est pas pour rien. Hein. C'est pas trois négociateurs qui vont faire coucou, on est là, on fait une petite poignée de main.
On n'occupe pas les journalistes et les photographes.
71. Ouais. Donc, la délégation iranienne était là pour négocier tout. Les avoirs gelés, l'uranium. Il y a des sous-accords. Quand je dis 5 préalables, 14 points, sur les 5 préalables, 3 étaient acceptés sur 5, ce qui est pas mal, et sur les 14 points, 10 ou 12 sur 14. Alors, j'ai deux versions différentes, alors je vais pas me lancer de savoir laquelle est la bonne, surtout que, comme je dis toujours, ça peut changer demain matin en fonction de l'humeur, du réveil, ou des incidents de la nuit, ou d'un Lego mal placé iranien qui agacerait.
Vous faites référence à ces vidéos de propagande régulièrement publiées, en effet, par le régime de Téhéran.
Le péage est assez...
Sur les trois points d'accord, revenons précisément.
Sur les trois préalables.
Les trois préalables. On parle évidemment du détroit d'Hormuz, qui est l'un des...
Dégel du détroit, mais maintien d'un contrôle omano-iranien.
Mais dans quelle mesure cela pourrait être une victoire pour le président américain et l'Amérique tout court? Comment pourrait-il être accepté, le détroit
été rouvert et peut-être qu'une autorité internationale se substituerait à une autorité binationale.
Ça, c'est une possibilité.
Bah, comme le canal de Panama, comme le canal de Suez, comme ce que font les Turcs chez eux. Il y a un débat sur... D'abord, la réalité du droit international de la mer sur le détroit d'Hormuz est assez compliquée depuis que l'accord de Montego Bay a élargi le champ des eaux territoriales omanaises et iraniennes dans des conditions telles qu'on voit plus très bien s'il existe des eaux internationales. Donc, il y a plein de sujets qui peuvent revenir, et ce qui semblait être une sorte de conception habituelle de la vie, de droit coutumier, est en train de se transformer dans une sorte de convention d'un nouveau genre, où après tout, pourquoi ne payerait-il pas, puisque des centaines de milliards de dollars transitent par là, que l'Iran demande la reconstruction de ce qui a été détruit, en même temps qu'ils veulent débloquer 100 milliards de dollars qui sont gelés. Alors là, il dirait une première tranche à 25 milliards, est-ce que ça vous convient? Oui, mais ça dépend si. Et donc, on est dans cette phase où il n'y a pas de rupture de la négociation. Il y a une sorte de tricotage très fin d'un cadre de négociation qui va être très, très, très compliqué, mais qui devrait...
Ça ne pourra pas aboutir, si je vous entends bien, aujourd'hui. Donc,
On peut tomber d'accord sur le cadre de la négociation. Les préalables sont levés, le détroit est rouvert, ça, c'est pas très compliqué. Et on a 60 jours pour finaliser l'accord sur le nucléaire avec des Russes disant, écoutez, on va le prendre chez nous, mais à Bouchehr, la centrale qu'il gère à l'intérieur de l'Iran, sous notre contrôle, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique qui revient. Là, on aura réglé peut-être une partie des soi-disant 440 kilos. Il reste 11 tonnes, je précise quand même, entre 2 et 60%,
on se concentre sur ces 440 kilos, mais il y en a beaucoup d'autres. Juste une parenthèse, nos confrères de CBS News nous expliquent aussi que si ces négociations sont si
je mets de gros guillemets, laborieuse, même si vous nous dites finalement que c'est l'art de la diplomatie, c'est aussi parce que le mollah Khamenei est aussi bunkérisé, que si la communication est si lente, c'est qu'il ne souhaite pas être repéré, et donc tout se fait finalement, j'ai envie de dire, mano à mano dans des tunnels. Est-ce que ça, c'est un argument qui retient votre attention ou qui n'a que très peu d'incidence?
Il n'y a aucune incidence. De toute façon, il y a eu un coup d'État en Iran qu'on n'a pas voulu voir, où avant il y avait trois pouvoirs avec une sorte de chef au sommet qui était l'ayatollah Khomeini. L'ayatollah Khamenei est lui-même une créature qui n'aurait jamais dû pouvoir succéder à l'ayatollah Khomeini puisqu'il ne correspondait à aucun des critères de la succession, mais qui était un compromis à l'intérieur de différentes factions iraniennes. Là, il n'y a plus qu'une seule faction qui tient le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir, qui s'appelle le commando Habib ou le cercle Habib, qui sont d'anciens gardiens de la révolution ayant fait la guerre en Irak dans la même unité et qui ont un accord entre eux. C'est un petit cercle de pouvoir qui a pris le contrôle du pays grâce à l'élimination, l'effet d'aubaine de l'élimination de toute la direction politico-militaire iranienne.
Et elles ont été nombreuses, ces éliminations,
elles continuent d'ailleurs,
ouais, bien sûr.
Parce qu'on n'en parle pas, mais pendant ce temps-là, les Mossad, en général, arrivent à ce qu'ils... Eux, ils veulent termiter le régime. Ils disent, ouais, la poutre, elle est toujours là, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte que nous termitons le régime, parce que tous les jours, il y a une élimination par-ci, une élimination par-là, que les Iraniens nous envoient des informations et que nous procédons à des frappes ciblées ou à des assassinats ciblés ou à des attentats ciblés. Il y a beaucoup de sujets en Iran. Et donc, la réalité, elle est très différente de l'image qu'on en fait. C'est toujours pas très visible, mais c'est très profond et c'est très permanent. Les Israéliens n'ont pas abandonné l'idée de l'effondrement du régime d'une manière ou d'une autre. Alors après, est-ce que c'est une reconstruction pour expliquer l'échec de la phase 1? Mais les Israéliens ont toujours dit c'est une phase 1, c'est pas la dernière phase.
Et on va revenir,
c'est le début de quelque chose.
On va revenir ensemble sur d'ailleurs ce coup de fil très important entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump hier. Juste revenir sur la question du nucléaire. Et si aussi Donald Trump était lâché par son propre camp. Les critiques dans le camp républicain hier soir se sont faites extrêmement nombreuses. Erreur désastreuse si le nucléaire ne faisait pas partie de cet accord préalable.
Le camp républicain de tous ceux qui se sont fait battre aux primaires? Parce que je précise que le camp républicain, qui soi-disant est affaibli, et Donald Trump est affaibli, il a éliminé tous ses ennemis, tous ses adversaires
là grâce encore, à la base républicaine. Ce sont des critiques qu'il balaye et que vous balayez aussi.
Moi, je partage une partie des critiques, hein, c'est pas la question. Mais la réalité de la puissance de l'opposition dans le camp républicain à Donald Trump se reflète par le résultat des primaires. Je ne comprends pas pourquoi on se base sur nos propres illusions pour croire qu'elles s'appliquent dans la réalité électorale. Les électeurs MAGA élimine tous les opposants à Donald Trump un par un, de primaire en primaire, de manière quasiment systématique et démocratique par ailleurs. Donc un jour ou l'autre, il va falloir accepter, un, il a été élu, deux, il a été confortablement élu, et trois, il tient encore son camp de manière suffisante pour éliminer ses opposants en interne. Il n'est pas majoritaire dans le pays, mais il est majoritaire chez lui.
Une question, et vous en parliez, de Benjamin Netanyahou, Israël, ce coup de fil. Et pour Israël, la fin du nucléaire, c'est un totem inamovible pour le président pour le premier ministre israélien. Là encore une fois, si cet accord devait aboutir, quelle serait la position, selon vous, d'Israël demain?
Alors, d'abord, comme le dit très bien Donald Trump, Bibi fait ce que je veux, c'est le petit nom qu'il donne au Premier ministre Netanyahou. Deuxièmement, Israël peut pas faire seul, mais Israël peut faire beaucoup de choses de manière souterraine. Ils n'ont jamais arrêté de le faire en éliminant des scientifiques avant même la guerre, en éliminant des zones de centrifugeuses, en éliminant des transports, en identifiant des personnalités essentielles.
Et donc Bibi ne fait pas totalement ce que Trump veut?
Non.
Oui.
Mais Trump laissera Bibi faire ce qu'il veut en disant « je ne suis pas au courant ».
Oui, mais un accord, est-ce que peut aujourd'hui satisfaire Benjamin Netanyahou?
Pas du tout.
Pas en l'état,
non.
En tout cas pas avec les points préalables évoqués.
Mais il fera avec.
Mais il fera avec. Vous évoquiez le Groenland, on évoque aussi Cuba.
Oui.
C'est la suite, si on élargit la focale,
oui.
C'est la suite aussi, c'est un plan très organisé par le président américain.
Totalement structuré, il a récupéré le canal de Panama au nez à la barbe des Chinois, qui d'ailleurs ne s'en sont toujours pas remis. Il a signé un accord pour contrôler la sortie de la mer de Chine avec l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, le détroit de Malacca, c'est 80% de l'export. Il est en train de gérer les conditions de sortie des pétroliers vers la Chine. Je rappelle que la Chine, la quasi-totalité des raffineries chinoises sont formatées pour le pétrole iranien et seulement pour ce pétrole-là, à cause de sa qualité et de son faible indice. Donc, ce sont des choses extrêmement importantes pour lui. On est aujourd'hui dans une phase où il est en train d'étrangler Cuba, y compris en menaçant d'arrêter, d'interpeller l'ancien président cubain qui contrôle encore tout, Raúl Castro. On est dans une phase où il est en train d'hémisphériquement de récupérer l'Amérique du Sud. Prochaine étape, Cuba. Étape suivante, le Brésil.
Ça, vous faites, ça fait partie d'un plan très organisé du président américain.
Il suffit de le regarder. On n'a pas besoin d'être un génie intergalactique. Il suffit de lire ce qu'ils disent et de voir ce qu'ils font.
Merci beaucoup, Alain Bauer, de votre regard ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre, Le pouvoir des mots de Trump aux éditions First. Merci infiniment. Il est 8h47 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV.
Merci Marie Chantrey. Dans un instant, vous restez bien sur RMC. C'est Face à Canteloup avec Nicolas Canteloup. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
8h50, Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Alain Bauer était l'invité du Face à Face et il est encore avec nous. Rebonjour Alain Bauer. Alors qu'hier, un accord entre les États-Unis et l'Iran semblait imminent, il n'a pas eu lieu. C'est plutôt surprenant.
Pas du tout. C'était totalement prévisible, notamment sur la question de l'uranium. Donald Trump ne veut pas que l'uranium soit enrichi. Il veut que ce soit lui qui soit enrichi. Vous savez, le nucléaire, c'est compliqué. Je l'explique d'ailleurs dans mon nouveau livre qui sortira cet après-midi et qui s'intitule « Construire une bombe atomique pour les nuls ». Un livre que je déconseille aux enfants de moins de 12 ans.
Alors, donc vous pensez qu'on a eu droit à un énième revirement de Donald Trump?
Pas du tout. Donald Trump ne change jamais d'avis puisqu'il n'a tout simplement pas d'avis. Et vous le sauriez si vous aviez lu, mon cher monsieur Béliard, le livre pour enfants que j'ai sorti avant-hier et qui s'intitule « I don't give a fuck », les mots de Donald Trump expliqués aux tout petits. Hein, et qui contient, je le précise pour les parents, des coloriages. Donc c'est très accessible.
Alors on peut quand même espérer que les États-Unis contraignent l'Iran à signer un accord dans les prochains jours?
Pas du tout. Les États-Unis ont à l'évidence perdu leur puissance et leur influence, que ce soit politique ou même d'ailleurs culturelle. D'ailleurs, Hollywood, aujourd'hui, a moins d'influence. J'en parlerai d'ailleurs dans mon prochain livre qui s'intitule « La décadence de l'Amérique » de Paul Newman à Laurent Neumann.
Eh bien, merci Alain Bauer. Comme toujours, c'était très clair.
Absolument pas.
Non.
Ah là, je vous ai bien eu. Hein, vous attendiez un petit pas du tout.
Oui, c'est vrai.
Eh bien, pas du tout. En tout cas, tout le plaisir était pour moi. J'étais ravi, une fois de plus, de vous faire passer pour des cons.
Merci Alain Bauer. Et sans plus attendre, on retrouve Pascal Pro pour les titres de l'actualité.
Et oui, je chausse mes lunettes pour voir de plus près. Mais non, ce n'est pas Pauline, c'est Mathieu. Bonjour Mathieu, bonjour. Que dis-je ? Saint Mathieu, un des seuls qui sert l'office un jour de Pentecôte pour les fidèles de la paroisse d'RMC. Allez Mathieu, je vous emmène, je vous promène à Cannes où la Palme d'Or a été décernée, vous le savez, au film Fjord du réalisateur roumain Christian Mungiu. Bon, bref, voilà ce qui se passe quand on laisse entrer des Roumains chez nous. Voilà, ils nous volent même nos récompenses au-delà de notre travail, récompense aussi. Enfin, voilà, c'est déjà beau qu'on ait pu avoir la retransmission de la cérémonie de la Palme d'Or, parce que ces amis roms auraient très bien pu voler, on ne sait pas, tous les câbles chargés de cuivre. Mais la sécurité a bien fait son travail, à la bonne heure. Allez, on continue dans l'artistique. Le Pont Neuf a été emballé. Voilà, encore un délire, je suppose, d'un artiste bobo gauchiste subventionné. Mais plutôt que de notre magnifique Pont-Neuf, autant emballer quelque chose de moche, comme je ne sais pas, moi, le centre Pompidou, ou la Seine-Saint-Denis, ou quelque chose d'inutile, je ne sais pas, les locaux de France Inter, voilà. Allez, à vous, Mathieu.
Merci, Pascal. Alors, Gabriel Attal est avec nous. Bonjour, monsieur Attal. Vous avez donc officialisé votre candidature à la présidentielle de Virginie.
village de l'Aveyron.
Oui, bonjour. Bonjour, j'ai toujours les yeux écarquillés quand je découvre des nouveaux départements comme l'Aveyron. J'ai toujours été attaché à la France des petits villages. Plus que tout, à l'Aveyron. Un département que je connais très bien, l'Aveyron. L'Aveyron avec un des plus beaux ponts de France, le pont de Tancarville, qui enjambe la vallée du Gard. Mais l'Aveyron, c'est aussi une gastronomie. Le Munster, vous le savez. Les bêtises de Cambrai, la bouillabaisse.
Alors, oula. Je suis pas sûr que c'est comme ça que vous allez vous faire taire les accusations de parisianisme.
Écoutez, monsieur Béliard, je connais bien la France et ses régions. Ouais. J'étais à l'école alsacienne. J'habite rue de Bourgogne et j'ai travaillé avec Marisol Touraine. Je veux dire, on peut pas faire plus provincial que moi.
Franchement, c'est pas un peu ridicule de vouloir à tout prix se donner un côté France profonde?
Eh ben voilà. Dès qu'on est issu du monde agricole, hein, comme moi, ça y est, les élites et les journalistes vous caricaturent. Je vais quand même pas m'excuser, pardon monsieur Béliard, d'avoir passé toute mon enfance dans une ferme. Pardon. Hein, je n'ai que des très bons souvenirs d'ailleurs. Tous les matins, je me revois à la tombée de la nuit. J'allais traire les cochons pour faire du fromage. Avant d'aller en culotte courte, Hugo Boss, grimper aux arbres pour cueillir les carottes et moissonner les pommes de terre qui venaient à peine d'éclore. Donc je le dis aux Français des territoires ruraux, personne ne saura mieux que moi vous représenter. Pardon, excusez-moi, je vous laisse parce que ça va être un moment magnifique. J'ai une vache qui est en salle de travail. Ça va être un moment génial. Elle va avoir une portée d'agneau.
Merci beaucoup, monsieur Attal. Plusieurs maires ont demandé l'annulation des concerts de Patrick Bruel prévus dans leur ville. Bonjour, Éric Ciotti. En tant que maire de Nice, vous joignez à ces élus?
Oui, bonjour. Bonjour monsieur Béliard, je salue monsieur Bauer que j'écoute avec passion toujours. Parfait. Écoutez, pour revenir à votre question, à d'autres villes, Nice, la situation est totalement différente. Chez nous, les jeunes femmes ont 78 ans. Donc, il y a très peu de risques qu'elles intéressent monsieur Bruel, et si jamais, malgré Alzheimer, elles se souvenaient d'accusations contre Patrick Bruel, il y a peu de risque qu'elle manifeste pour perturber ses concerts.
Ah bon ?
Oui, la dernière fois que des Niçoises ont manifesté, c'était pour Julien Lepers, lorsqu'il a été évincé de questions pour un champion. Alors, c'est vrai que nous avons eu quelques protestations quand France 3 a arrêté Plus belle la vie, et quand les deux marmottes, la marque Les deux marmottes, ont changé la formule de la tisane jambe lourde, mais nous avons pu canaliser ces rebelles.
Alors, revenons au sujet. Vous ne demandez pas l'annulation des concerts?
Ah si, bien sûr, je demande l'annulation de tous les concerts de Maître Gims, de Monsieur Faudel, de Yannick Noah, de Cheb Mami, d'Youssou N'Dour, de Khaled.
Ouais. Voilà. Des annulations de concerts de Patrick Bruel.
Attendez, j'ai pas fini. J'exige également l'annulation immédiate et concomitante des concerts de Monsieur Bono, le chanteur de U2.
Non, attendez, il a été accusé d'agression sexuelle, Bono?
Mais pire que ça, c'est le chanteur préféré de Christian Estrosi. Donc j'annule. Voilà. En revanche, bien sûr, je maintiens le concert du 10 juin à Nice de Franck Michael, oui, qui est le chanteur préféré d'Alain Marchal. Voilà. J'ai prouvé deux places pour deux concerts, monsieur Marchal, pour y aller avec monsieur Truchot.
Eh ben merci Nicolas. Face à Cantelou, qu'on retrouve dès demain en direct à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, c'est les GG. Quel est le programme, mon cher Alain? Bonjour.
Eh bien, dans les grandes gueules. Bonjour à tous, on reviendra sur le match qui est lancé entre Gabriel Attal et Édouard Philippe. À votre avis, qui est le mieux placé? Qui peut l'emporter? Le moratoire de 3 ans sur l'immigration, ça c'est la proposition de Gérald Darmanin. On reparlera aussi de l'intelligence artificielle et peut-être de la vie éternelle, c'est le thème d'un livre de Laurent Alexandre. Vivre 1000 ans, est-ce que ça vous tente? En fait, c'est pas 1000 ans physique, mais grâce à l'intelligence artificielle, c'est peut-être notre esprit qui pourra rester comme ça présent pendant 1000 ans. Et puis, bien évidemment, avec nos GG et surtout avec vous au 32-16, un mot sur le coup de chaleur qui s'est installé sur la France avec ces manifestations sportives qui ont été maintenues. Un mort, des malaises par dizaines. Est-ce bien raisonnable? 32-16 pour venir témoigner aux grandes gueules.